Odissea 14702 prima.
Avanti.
Azione.
是我，如果有多张船飞。 你会不会同我一起走？
Extérieur nuit.
Extérieur nuit.
The way of the samurai is one of immediacy, and it is best to dash in headlong.
जान पहचान हो जीना आसान हो जान पहचान हो जीना आसान हो दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ.
Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Extérieur Nuit. Vous la connaissez cette émission, du moins nous l'espérons, consacrée aux sorties cinéma de la semaine. Alors évidemment, vous en doutez bien, on ne va pas y couper et on va vous souhaiter à tous une bonne année 2006. Pleine de films que nous espérons meilleurs les uns que les autres, mais ce serait faire preuve un peu d'angélisme que de croire que les semaines se succéderont avec que des bons films, que des cartons. Des mauvais films, il y en aura, et Extérieur Nuit se fera fort de les épingler. Vous commencez à nous connaître, vous savez que nous savons être rudes et méchants quand il le faut, mais jamais gratuitement. Alors souhaitons-nous, souhaitons-vous plutôt une année 2006 pleine d'émotions cinématographiques, quelques larmes, de francs éclats de rire, quelques gorges nouées et bien sûr une petite dose d'énervement. Ça aussi, vous le savez, nous ne sommes pas les derniers à nous agacer contre les navets que nous proposent les producteurs. Pour ce premier édito de l'année, c'est quand même bien la moindre des choses, c'est d'espérer que 2 heures devant un écran vous feront sentir un petit peu plus vivant.
आती है शाम जवां यूं ना चली जाए फिर से ना आएगी या किसी के बुलाए फिर से ना आएगी या किसी के बुलाए फिर से ना आएगी या किसी के बुलाए.
Et pour m'accompagner ce soir autour du micro, une équipe chargée. Ils n'ont pas été ensevelis sous les pelletés de foie gras, d'huîtres et que sais-je encore. Donc ce soir avec moi, Gabi, Grégoire, Julien, Vincent, un revenant Guillaume qui n'était pas venu depuis un bon moment, ma foi. Et nous allons commencer tout de suite parce que, comme chaque semaine, le programme est très chargé avec un film Lord of War. Vous avez sans doute vu les affiches dans tout Paris. Une affiche assez impressionnante puisqu'on voit Nicolas Cage surplombant, comment dire, une sorte de colline de balles, quelque chose comme ça. Et ce film d'Andrew Niccol, Julien, retrace l'itinéraire d'un trafiquant d'armes.
Plus exactement de Yuri, qui est joué par donc Nicolas Cage, et de son frère, qui est incarné par Jared Leto, dans le monde des affaires géopolitiques, des guerres géopolitiques. Le film est assez bien fait. Mais c'est quand même, ça ressemble beaucoup à un film de petit malin qui vient d'avoir sa carte d'altermondialiste. C'est-à-dire que
Hop, les premiers à en prendre un coup ce soir, les altermondialistes.
Mais c'est vrai, c'est une sorte de premier de la classe, il pense tout savoir et nous le dit. Et ainsi, le film a deux courants. C'est-à-dire qu'un courant documentaire où il montre et il démontre tout ce qu'il sait. C'est-à-dire la chute du bloc communiste a permis... L'essor des trafiquants d'armes et des...
Parce que lui est ukrainien, c'est ça d'origine.
Il est d'origine ukrainienne et il est installé aux États-Unis. Ça, à mon avis, c'est une facilité de scénario pour pouvoir amener ça le bloc communiste qui a livré toutes ces tonnes d'armes. C'est extrêmement précis dans les faits, dans les pourcentages, dans tout ce qu'il donne. Donc c'est extrêmement documenté, à la limite documentaire, on peut dire même. Et... par-dessus ça, il y a toute une ligne de fiction qui est un peu énervante parce que c'est très, pas clipesque, mais c'est de l'épate, quoi. Ça s'ouvre sur un plan séquence qui est extrêmement bien fait, qui suit un bout de fer qui devient une balle, tout le cheminement jusqu'à ce qu'elle atterrisse dans la tête d'un petit Africain. Donc c'est assez effroyable. Et en même temps, il y a ce côté parfait, rouage parfaitement maîtrisé de la mise en scène qui rend le film assez froid, assez hermétique.
Mais les personnages le sont aussi, non ? Je suppose qu'on...
Oui, mais est-ce que les personnages sont cyniques et sans remords, le film doit l'être cynique et sans remords. Ça me paraît un peu facile, quoi.
Vincent, est-ce que tu es aussi partagé sur ce Lord of War cynique, froid,
il est question
glacé.
De partage, parce que vraiment le film a, on va le dire, le cul entre deux chaises, entre ce côté documentaire et ce côté fiction. Ce côté documentaire est presque, on va dire, phagocyté par la fiction, qui, par un travail super léché, des plans fixes, plus fixes que, on va dire, un vrai travail de mise en scène, de travelling, etc. Et en fait, toute cette ascension, on la suit d'un œil plutôt distrait. Alors, on veut abandonner le côté réaliste.
C'est vraiment la très résistible ascension de Yuri, alors, d'après ce que vous dites.
Bah, dans le sens déjà où cette ascension, on la voit pas. Dans le sens où il devient trafiquant d'armes comme par miracle. Alors, il dit je veux devenir trafiquant d'armes, l'instant d'après ou le plan d'après, il est déjà un petit peu trafiquant d'armes, on sait pas comment, qui l'a rencontré, pourquoi, etc. À part à un moment on voit un ami de la famille, puis après il devient le plus grand trafiquant d'armes de tous les temps, et entre guillemets on sait pas comment. Donc ça, moi je trouve que c'est le plus agaçant, surtout que le film veut dénoncer quelque chose. Ça il faut pas l'oublier. Et c'est là où la fiction en fait rejoint la réalité, et je trouve que la manière dont Andrew Niccol, qui est plus un scénariste qu'un bon scénariste, qu'un bon metteur en scène.
Qu'est-ce qu'il a commis auparavant pour nos
auditeurs
qui ne le connaîtraient pas ?
Son premier film, c'était Bienvenue à Gattaca, qui, moi je pense que c'est l'homme d'un seul bon film, dans le sens où c'est un film très, on va dire, illustratoire, etc., avec un très bon sujet, très froid, parce qu'il racontait un futuriste très froid.
Il a fait d'autres scénarios vachement beaux, il a fait The Truman Show, il a fait le scénario du Terminal.
C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire, c'est un scénariste plus qu'un réalisateur, parce qu'on va dire que son deuxième film c'était Simone.
Enfin, c'était bien Simone, avec Al Pacino.
Bah, c'était très bien Simone alors. Non, j'ai trouvé qu'il tombait déjà dans les
c'est pour ça que je présente et que je parle pas des films, tu vois. Moi j'ai des goûts tout pourris.
Il tombait déjà dans, je trouve, les mêmes pièges. Et là en fait le problème c'est que le film reste assez, comme il disait, épatant et spectaculaire. En tant que fiction, entre en divertissement, il est assez efficace. Nicolas Cage est d'une puissance vraiment. Il y a un discours final, on tombe dedans. C'est-à-dire que c'est vraiment quasiment 5 minutes.
Voilà, on ne raconte pas la fin.
Non,
t'as déjà tué
l'habitude.
Le monde de Narnia avant les vacances. Voilà. Des milliers d'enfants sont venus pleurer à la radio.
Et je trouve que ce discours est très efficace. Le problème, c'est efficace mais très rhétorique. Et donc à la fin, où il rejoint la réalité en disant un peu, voilà, les plus grands trafiquants d'armes sont la France, les États-Unis. Tout son discours tombe très à plat et on dit voilà, le premier de la classe, on l'a bien compris, au revoir, merci, le film n'est pas si efficace que ça.
Bon, donc le premier de la classe, Gaby, est-ce que toi aussi tu lui mets le bonnet d'âne finalement ?
Ben, je pense que là, vraiment, pour pouvoir résumer bien ce film, puis je pense que je suis quand même assez avec l'opinion ici, c'est vraiment le dualisme qu'il y a dans ce film-là, où est-ce qu'il y a vraiment une critique, mais en même temps, c'est tout un petit peu gommé avec la fiction, avec l'image, avec la beauté des images, avec des phrases parfois un peu vides, un peu floues, un peu... on sait pas trop où s'enligner. On le sait qu'il y a quand même une conscience de dénonciation, mais on n'accède jamais vraiment à ça parce que le film est vraiment beau visuellement.
Bon, d'accord. Donc, Andrew, tu as voulu trop bien faire et en fait, c'est pas si bien. Je pense qu'on peut résumer comme ça Lord of War d'une façon extrêmement subtile et fine qui me caractérise. Et pour vous remettre de ce film pourtant encensé, ma foi, par la critique, mais pas ici à Radio Campus, un brin de musique.
Thank you.
De retour sur les ondes de Radio Campus Paris 93.9 FM avec un morceau que vous venez d'écouter d'Audio Pixel au titre, comment dirais-je, hautement poétique, à savoir « J'ai plus de peine pour un chat écrasé ». Voilà, méditez là-dessus. Je suis tellement... ça m'a complètement décontenancé ce titre. Donc on va passer tout de suite au film de la semaine. Ah, il n'y a pas de jingle, donc on va passer au film de la semaine sans jingle, avec Grégoire, puisque nous avons décrété film de la semaine un documentaire.
Le premier film de la semaine de 2006.
Exactement, et ma foi, c'est pas le plus mauvais. Même s'il prête à polémique au sein de cette rédaction. Il s'agit de La fille du juge de William Carell. William Carell, vous le connaissez, il a fait il n'y a pas très très longtemps Le monde selon Bush. Il avait été également l'auteur d'un documentaire sur le journal télévisé à France 2 qui avait fait couler pas mal d'encre à son époque parce qu'il remettait en question la façon de travailler des journalistes télé. Avec La fille du juge, en fait, William Carell revient sur l'affaire Boulouk. Peut-être vous en souvenez-vous, quoique. Dans les années 80, vous vous souvenez, il y avait une vague d'attentats terroristes à Paris, le tatis de la rue de Rennes notamment, et était chargé donc de cette affaire un juge, le juge Gilles Boulouk, donc un juge antiterroriste, à qui il a été reproché, en fait, au cours de cette affaire, d'avoir laissé filer, vraiment, un complice présumé de ces attentats, et le juge avait été vraiment victime de l'opprobre public. Il avait été l'enjeu même d'un débat entre Mitterrand et Jacques Chirac avant la présidentielle, je suppose de 88, donc ça devait être vers 87. Et donc en fait là, William Carell revient sur l'affaire en adaptant à l'écran le livre de la fille du juge, donc Clémence Boulouk, qui s'appelle Mort d'un silence, merci, qui est publié chez Folio Gallimard, ça je le savais. Et donc en fait Clémence Boulouk est étudiante à New York, et elle est à New York le 11 septembre 2001, et en fait cet attentat va réveiller ce traumatisme, puisque son père s'est suicidé en fait lorsqu'elle avait 13 ans, victime justement de la pression médiatique. Grégoire, alors que dire de ce documentaire avec une voix off d'Elsa Zilberstein.
C'est à mon avis le gros avantage de ce documentaire, c'est que donc il y a une voix off qui est dite par Elsa Zilberstein, mais en fait la voix off est tirée du livre de Clémence Boulouk, et bon, évidemment William Carell a sélectionné, parce qu'on ne peut pas lire tout un
in extenso
un livre en une heure et demie, je crois, à peu près dure le film, mais il donne vraiment la voix à Clémence Boulouk, et en plus il la filme un petit peu au début, il la filme justement dans New York aujourd'hui, évidemment, parce que si le livre a été, j'allais dire, causé par ces attentats du 11 septembre, comme elle le raconte dans cette voix off, parce qu'elle est arrivée à New York et pile elle tombe dans le terrorisme, il n'a pas pu filmer à ce moment-là, et il a filmé.
Alors il y a des images d'archives.
Images d'archives et des images maintenant. Ce qui est assez bien, c'est justement ce mélange entre... J'ai eu un peu peur au début, en voyant Clémence Boulouk dans New York après les attentats, je me suis dit peut-être qu'il en fait un peu trop, William Carell, surtout que la façon dont son passé de documentariste politique...
C'est
un
quelqu'un
peu,
d'assez démonstratif quand même. Hein,
On pourrait se dire, sur cette histoire-là, il aurait pu refaire une enquête, savoir est-ce que effectivement il y a eu un... Parce que l'histoire, c'était... Gilles Boulouk aurait laissé partir un suspect parce que la veille, il y a eu une négociation et deux otages français au Liban ont été libérés, et donc ça aurait été une monnaie d'échange, c'est ce qui s'était dit. En fait, non. Il suit le livre, il utilise des images d'archives, parce que Gilles Boulouk, comme sans doute beaucoup de papas à l'époque, dans les années 80, avait une caméra Super 8, avait filmé sa fille beaucoup. On la voit grandir, il filme sa fille, il filme sa famille, et ça ajoute à cette atmosphère de passage, parce que tout le film, en fait, c'est l'histoire d'un passage, c'est l'histoire d'une enfance volée, le passage à l'adolescence qui se fait sous protection
sans
policière,
sans le père. Puisqu'elle meurt, Gilles Boulouk se suicide, il a 13 ans, il se suicide dans l'appartement familial,
en rentrant d'une soirée, c'est assez terrifiant en un sens, et je sais pas, moi surtout ce qui m'a touché, c'est que ça a été mes premières larmes au cinéma en 2006, quoi. Donc tu nous souhaitais des larmes au cinéma, je les ai déjà eues.
Moi je l'ai vu fin 2005, oui, mais j'ai complètement éclaté le stock de mouchoirs pour l'année 2005 avec ce film. Mais je crois que Julien, lui, par contre, non, quoi.
Bah si, j'ai éclaté le stock de mouchoirs, mais c'est parce que j'avais un rhume.
Alors, il parlait de cynisme, bravo.
Oui, non, mais le film est très bien, mais il n'est pas émouvant. Alors, c'est ce que je regrette, effectivement, William Carell est un très bon documentariste, une investigation très précise, ça se voyait déjà dans Le Monde selon Bush et dans CIA, la guerre secrète, les guerres secrètes de la CIA, je crois que c'était un truc comme ça. Le film... malheureusement, je trouve qu'il navigue dans quelque chose de nouveau entre la fiction et le documentaire. La voix de Elsa Gibson est évidemment un élément de fiction. Le montage aussi entre les images du 11 septembre et la fille du juge Bullock justement dans
le
classique.
Parce qu'il faudrait peut-être expliquer à l'auditeur qu'en fait il y a trois volets qui se superposent dans ce film. Le 11 septembre, les images d'archives de la famille Bullock, c'est-à-dire photographie, mais aussi effectivement comme tu le disais les films Super 8, et un troisième qui est le contexte politique avec les images de journaux télévisés, les caricatures de Plantu qui n'arrêtent pas d'assassiner ce pauvre juge à coup de dessin. Il y a ces trois volets.
On peut dire que le premier volet, qui est finalement l'émotion de la fille, est pas très intéressant. Moi, je suis pas du tout rentré dedans. Je trouvais ça factice. Ça a donné même l'impression d'un docudrama assez pato, quoi.
Grégoire, mais réagis.
Ouais, mais non. Attends, mais ce que je trouve vraiment, vraiment intéressant dans le film, c'est ce qu'il arrive à faire entre la vie privée et la vie publique, comment il en parle, voilà, comment la vie privée est atteinte par la vie publique, par les journaux, par tous les petits dessins, par les petits pics et par finalement la réalité qui dépasse des fois le simple entrefilé dans un magazine, quoi. Et je trouve ça vraiment bien, vraiment intéressant, et c'est ce côté là que je trouve assez formidable dans le film. Le côté émotionnel.
Alors Grégoire, il y a quand même, enfin je sais pas, une part émotionnelle au sens où est présente tout le temps cette absence du père qui est criante. Enfin, personnellement, j'ai trouvé qu'elle prenait vraiment au trip, puisque c'est quand même l'histoire d'une petite fille, une jeune fille qui se construit en tant que femme sans son père. Bon, alors sans rentrer dans des considérations psychanalytiques, c'est quand même quelque chose d'assez touchant, non ?
Oui, non, c'est sûr.
Mais j'aurais préféré
plutôt revenir sur ce que disait Julien. Vas-y. Effectivement, un des moments les plus beaux du film, c'est, et qui, à mon avis, j'ai pas lu le livre, hein, donc, et en plus, maintenant, après avoir vu le film, ça serait sans doute faussé. Mais dans le livre, j'imagine qu'on peut pas avoir la même chose que ce qu'il y a dans le film, c'est-à-dire qu'on voit des images d'archives, et là, on entend une voix off qui nous dit, là, mon père a repris une cigarette. Et on sent ce commentaire sur ce qui se dit à la télé. Je trouve qu'effectivement il y a une force dans ce que tu disais sur l'insertion de la vie publique dans la vie privée, et là on est vraiment dans quelque chose qui est quasiment ce que vit Gilles Boulouk, c'est quasiment la tragédie grecque, avec des dieux qui sont plus les dieux du Parthénon, mais qui sont le politique et les médias. Finalement, il est ballotté d'un à l'autre, et ce que nous dit Clémence Boulouk, c'est qu'elle voit son père le peu de fois où elle le voit. Elle voit que c'est plus lui et que c'est plus lui qui dirige sa vie. C'est ça qui m'a vraiment.
Peut-être revenir un petit peu sur cette voix off justement qui guide tout le film, qui est une voix blanche, très clinique. Je sais pas si l'un de vous deux, toi, je crois que Julien, ça t'a pas.
Moi, j'oserais dire inhabité, mais voilà, c'est parce que vraiment la voix d'Elsa Gibson m'agace. Je me demande elle est là, pourquoi j'aurais voulu entendre parler cette fille, quoi. J'aurais voulu la voir parler, témoigner, et je la vois juste déambuler dans l'image, et ça m'agace un peu, alors que. Enfin, voilà, ce qu'elle a écrit est très beau, très intéressant, et j'aurais voulu.
Mais peut-être qu'elle n'aurait pas su bien le dire. C'est, voilà, c'est une voix blanche dans la douleur.
Elle n'avait pas envie. Moi, le reproche que je pourrais faire sur le choix d'Elsa Silberstein, c'est pas sur sa voix, c'est qu'au tout début, dans le générique, on a des plans d'Elsa Silberstein qui trie les photos de la famille Boulouk. Et moi, je trouve que ça, c'est un petit peu trop, justement, parce que là, ça.
Une incursion fictionnelle trop présente.
Je suis rentré d'abord en me disant, ah oui, mais là, c'est de la fiction tout de suite. Et après, le temps de s'y remettre dans le documentaire, ça m'a un petit peu gêné. Mais ça dure 5 minutes et c'est.
En même temps, voilà, c'est quand même plutôt vraiment louable qu'un documentariste s'essaye à quelque chose de nouveau à cette échelle-là, quoi, avec un sujet aussi important, qu'il ne soit pas tenu à un documentaire formaté ou à un film de fiction formaté. Même si j'aime pas, je trouve que c'est vraiment, vraiment admirable et c'est vraiment courageux, quoi.
Et puis c'est quand même un film qui dit des choses assez terribles sur le politique, puisqu'en fait, on a souvent tendance à l'oublier, mais c'est dans le cadre de l'affaire Boulouk que justement Chirac dit cette phrase à Mitterrand. Est-ce que vous pouvez me le dire dans les yeux? Et c'est vrai que William Carell repasse ce moment qui est d'une hypocrisie terrible pour chacun des deux protagonistes. C'est-à-dire qu'il se renvoie la balle et que cette balle, finalement, c'est le juge Boulouk et que cet homme n'est finalement qu'un enjeu politique.
Oui, c'est vraiment... Enfin, c'est ça. C'est une vie, la vie d'une personne qui est là et qui est ballottée de droite à gauche et c'est assez,
c'est
assez terrible.
Hein. Donc, il s'agit de la fille du juge de William Carell que vous pourrez voir en salle. Eh ben, vous pouvez le voir en salle dès aujourd'hui, suis-je sotte. Donc, avec la voix d'Elsa Silberstein. On passe à tout autre chose maintenant, puisqu'il s'agit du film Appelez-moi Kubrick, Color Me Kubrick, en version originale. Un film de Brian Cook avec John Malkovich et Mark Warren, Vincent. Et alors, raconte-moi Color Me Kubrick, enfin Appelez-moi Kubrick, c'est l'histoire d'un imposteur qui se fait passer pour Stanley Kubrick, chose d'autant plus facile que très très peu de gens savent à quoi ressemble Stanley Kubrick qui refusait de se faire photographier. Je crois qu'il y a un ou deux clichés qui circulaient où on le voyait barbu. Et donc, l'imposteur en question, c'est John Malkovich, et joué par John Malkovich, qui est en fait, un type complètement paumé, qui passe son temps à se travestir et qui va usurper l'identité de Stanley Kubrick pour se faire ouvrir les endroits les plus sélects, mais aussi récolter de l'argent, enfin bénéficier de tous les avantages possibles et inimaginables. Vincent,
oui.
Appelle-moi Kubrick.
Alors la manière dont tu le présentes, on peut se dire, oula, il y a un peu de psychologie dedans, il y a une petite gravité,
alors que pas du tout.
Il faut le retenir, déjà il n'y a aucune exposition dans le film, il n'y a aucune explication, on rentre directement dedans en suivant ce Alan Conway, je crois, qui
tout
est donc
fait.
L'imposteur.
Alan Conway.
Voilà, qui est fringué, je sais même pas comment dire, c'est une sorte de gay pride à lui tout seul.
Ouais, il a dû aller servir dans les costumes de la cage aux folles.
C'est assez exceptionnel, et en fait voilà, c'est à l'image du film, il faut... Tu parlais de goût et de couleur. Ce film est, je crois, pas du tout aimé ici. Alors moi, je vais essayer de le défendre.
Allez, et puis après, on le descendra consciencieusement.
Voilà, donc je fais ma part de la chose. Moi, je trouve que c'est... Je prends l'image d'une bulle de champagne, à savoir que ça dure 1h20. C'est pas prise de tête du tout, ça a aucune prétention. Il y a une certaine légitimité dans le sens où le scénariste et le réalisateur sont des amis proches et des longs collaborateurs de Stanley Kubrick. Donc là, le film ne fait de mal à personne, ni au spectateur, ni à Stanley Kubrick. C'est un numéro d'acteur. Pendant 1h20, John Malkovich habite chaque plan, et c'est une sorte de bonne blague qui est répétée, une anecdote qui est répétée à répétition, avec du cabotinage, avec donc...
Voilà, puisqu'en gros, c'est ce Alan Conway qui se fait passer pour Kubrick devant toutes sortes de gens
voilà.
possibles. En gros, il y en a 5, il y en a 4 qui sont bernés pour un qui se rend compte que...
Voilà, et tout est misé sur le décalage, dans le sens où l'imposteur ne connaît rien à Stanley Kubrick, ou presque... que les gens qui l'entourent, les gens qui sont piégés, et nous, on y connaît voire un peu, voire beaucoup. Donc ce décalage est créé tout le temps. Il y a quelqu'un qui le piège en parlant d'un film que Stanley Kubrick n'a pas réalisé, et lui commence à se lancer dans une logorée en expliquant qu'il avait eu des difficultés à le filmer.
Je crois que c'est Apocalypse Now ou quelque chose
voilà,
comme ça.
Voilà, de Nuremberg à Nuremberg.
Ah,
voilà,
de Nuremberg.
Et
oui,
je trouve ça assez esquis, on va dire. C'est pas un hommage du tout à Stanley Kubrick, au contraire, c'est un coup de coude... gentiment irrévérencieux. C'est assez représentatif d'une scène, par exemple, parce qu'on utilise beaucoup dans le film les musiques, en fait, des œuvres.
Des plans, il y a quand même clairement une référence à 2001, par exemple,
voilà,
avec un espace un peu...
Ou autrement, à le début, c'est Orange Mécanique avec des voyous du pauvre. Moi, j'aime beaucoup la scène où on entend, donc, Ainsi parlait Zarathoustra de Strauss, qui est la scène qui est la musique qui accompagne le début mythique de 2001. Et là, c'est... Oui, et là c'est le début, et là c'est quoi? C'est John Malkovich qui descend ses poubelles. Bon, voilà, c'est à l'image du film, ça va pas très loin. Il y a un dernier quart d'heure où on se mêle un peu de... C'est un fou, donc on l'emmène à l'hôpital psychiatrique, où là on va dire qu'ils veulent rester dans le délire et qu'ils n'ont plus vraiment de choses à raconter, donc là ça se perd un peu. Mais avant, moi j'ai suivi ça d'un œil à la fois distrait, et parfois j'ai souri, j'ai rigolé. Donc c'est un tout petit film pour un grand réalisateur.
Stanley Kubrick.
Kubrick,
ah oui, pas
sûr.
Brian Cook, non, parce
non,
que
non,
bon,
merci.
Voilà.
Alors Greg, est-ce que c'est un petit film pour un grand réalisateur et un petit pas pour l'homme et un grand pour le cinéma?
Un grand réalisateur, assurément, un petit film, j'ai du mal à dire ça. Moi, je me suis assez, pas ennuyé, mais j'ai vu le temps passer, parce que j'ai jamais cru en fait à ce personnage. John Malkovich
le joue. Il a existé pourtant.
Oui, non, c'est ça,
c'est un personnage
réel.
C'est ça
qui m'a gêné après, c'est que je lis le dossier de presse, je vois, il a existé vraiment, on nous donne des détails. Alors que dès le début, je sais pas, il est tellement dans l'outrance, dans le cliché, donc de la folle alcoolique. Voilà.
Oui, alors, juste pour les âmes sensibles, on voit John Malkovich en caleçon. Et enfin, personnellement, ça a vraiment tué un mythe. Ça faisait quelques films que ça se relâchait un peu au niveau de la bedaine, mais alors là, c'est l'hécatombe.
C'est pour le rôle, c'est pour le rôle.
Bon, tu parles, oui.
C'est son Raging Bull à lui.
Enfin, ça fait plusieurs films qui fait Raging Bull quand même.
Voilà. Non, donc moi, j'ai pas cru au personnage. Et donc, le problème, c'est que j'ai eu l'impression de voir. On avait vu, par exemple, à Cannes l'an dernier, un biopic, donc un film sur la biographie de Peter Sellers. Et donc là, j'ai eu l'impression j'ai eu l'impression de voir un faux biopic d'un faux cinéaste. Et donc, du coup.
Il reste pas grand chose de vrai.
Il restait pas grand chose et je me suis plutôt ennuyé. Parce que c'est.
Vincent, tu veux essayer de sauver ce film? Parce que je trouve que tu l'as pas très très bien vendu, si je puis me permettre.
On va dire que c'est pas non plus le film. On parlait de film de l'année, le film de début d'année 2006, c'est pas du tout le cas. Le film va
on est bien d'accord.
Voilà, le film, je pense, va passer inaperçu. Et c'est plutôt un film à aller voir en DVD, à louer en DVD au Vidéoclub, parce que ça vole pas très haut. Mais je trouve que, vu que le film ne montre aucune prétention, tu parlais de biopic par exemple de Peter Sellers, où là il y a une recherche, ils veulent raconter quelque chose. Là, ils veulent raconter pas grand chose. Ils ne peuvent raconter
mais
pas grand chose.
Mais dans ce cas-là, on ne fait pas un film si on n'a rien à raconter.
Je trouve que l'anecdote est assez croustillante pour en faire un running gag sur, on va dire, peut-être un moyen, voire là, un court long métrage. Et je trouve que ça fonctionne. Et puis, c'est peut-être aussi un petit caprice d'un réalisateur, d'un scénariste qui ont rendu hommage plus à eux-mêmes et alors qu'un rapport avec Stanley Kubrick qu'un hommage à Stanley Kubrick pour le spectateur. Et donc là, le faire partager de cette manière-là, assez enlevé, assez jubilatoire par moment, je dis pourquoi pas, il y a tellement d'autres mauvais films qui sont produits et qui sont projetés et qui sont distribués que là, pourquoi pas celui-ci.
Bon, bref, si vous avez 9 euros à perdre pour un film, bon, voilà quoi.
Ah ouais, tu me rappelles les coûts des 9 euros, j'avais oublié.
Et voilà. Et vous aurez découvert, grâce à Vincent, le concept du moyen long court métrage qui était inconnu de mes services, mais sans doute vous qui avez fait la fémise, vous savez ce que c'est un moyen long court métrage. Et tout de suite, pareil, méditez sur ce concept-là. Après, j'ai plus de peine pour un chat écrasé, le moyen long court métrage, et on se retrouve tout de suite après un peu de musique. Say you wanna get in. Talk at the cross. de retour sur Radio Campus Paris dans Extérieur Nuit après avoir écouté un petit peu de Matrix. Et tout de suite, on va passer à un film iranien qui s'intitule Une nuit de Nikki Karimi, qui relate en fait l'histoire, Julien, d'une jeune femme qui travaille dans un bureau à Téhéran.
D'adolescence même. D'une adolescente qui vient de se faire mettre à la rue par sa mère, en fait, qui attend son
copain.
Son copain, voilà. Bon. Et donc elle va errer toute la nuit dans les rues de Téhéran. Alors Nikki Karimi, du haut de son premier film, a failli, je dis bien failli, rentrer dans le club fermé que constituent Martin Scorsese, Jolie Doe et Michael Mann. Tous les trois ont en commun d'avoir filmé leur ville de prédilection la nuit dans un film. Martin Scorsese, c'était After
Mais
Hours.
Mais tu sais que Richard Bourringer va adapter C'est beau une ville la nuit. Je pense qu'il va faire partie du club.
J'allais le dire.
Ah pardon.
J'allais le dire. Donc voilà, Martin Scorsese, After Hours, Jolly Toe, récemment c'était Pity You, Michael Mann, ça a été Collateral avec Los Angeles, bon, voilà. Pourquoi ? Parce que c'est une ville la nuit, c'était ça ma référence à Richard Bourringer.
Ah, pardon.
Et effectivement, on aurait aimé voir Téhéran la nuit, ça aurait été magnifique. Parce que finalement, c'est le Téhéran qui n'est pas sous la coupe de son gouvernement, quoi. Mais... Elle se refuse à faire ça. Elle a cette matière qui est vraiment passionnante, qui est Téhéran la nuit, et elle préfère s'enfermer dans la voiture, dans trois voitures successives, pour parler des relations entre les hommes et les femmes. Alors, c'est pas que
En même temps, en Iran, c'est peut-être pas anodin.
C'est un sujet intéressant, c'est un sujet passionnant. Mais le problème, c'est que voilà, ça se résume à ça, à parler. Et pourquoi on ne pourrait pas. Voilà. C'est du cinéma,
mais peut-être
c'est
parce
image,
qu'il n'y a rien à montrer de Téhéran la nuit. Enfin, je sais pas, j'y suis jamais allé, mais.
Non, je pense que toutes les villes la nuit ont quelque chose à montrer. C'est obligé, quoi. Même Meaux ou Melun ont une vie nocturne passionnante, quoi. C'est certain. Là...
Vincent a quelque chose à dire sur la vie
nocturne. Il y a des voitures qui brûlent la nuit.
Ah bah alors bonjour les clichés, hein.
Et là, vraiment, c'est juste des petites discussions avec des clichés masculins, c'est-à-dire le. Bon, le médecin qui est passionné par sa femme, le juste, celui qui trompe sa femme tout le temps, bon voilà, et c'est vraiment pas intéressant pour ça. Elle rate son sujet complètement pour moi, elle passe à côté. Alors en même temps, je tiens à le préciser quand même, le ministre de la Culture iranien a fait récemment une déclaration, donc on se dit que même si elle a raté, on est content que le film existe, parce que la déclaration quand même fait assez peur, je la lis. C'est les films insultants pour la religion et la culture du peuple et les films décadents et stupides doivent être interdits.
Donc on se doute qu'en Iran la notion de décadence est extrêmement
large. Oui, donc voilà,
large.
Même si le film est pas très bon, on est content qu'il existe, quoi, finalement.
D'accord, donc il s'agit d'une nuit de Nikki Karimi qui, selon Julien, est donc passée à côté de son sujet et n'appartiendra pas au club des cinéastes. C'est beau, une ville, la nuit. Tout de suite, un autre film qui... avec nuit aussi dans le titre, ma foi, c'est formidable, puisqu'il s'agit de Good Night, Good Luck, le très attendu nouveau film de George Clooney. Les filles, il joue dedans, rassurez-vous, mais il y a également David Strathairn. Je sais pas si ça dit des choses à beaucoup de monde, David Strathairn.
Si, si, il a joué dans un film de John Sayles.
Bon,
c'est le dernier
voilà,
film de John Sayles qui était.
C'est bien ce que je disais.
Si, là, il a joué aussi dans La Rivière Sauvage avec
Robert Mitchum.
Mais il a jamais joué en fait les personnages principaux, toujours secondaires. Ouais.
Bon, voilà. Et alors là, David a son premier rôle. Alors, on est dans les années 50 et Ed Murrow est en fait le présentateur et rédacteur chef adjoint d'une émission qui s'apparente à 5 colonnes à la une un peu sur CBS, c'est-à-dire qu'on traite chaque semaine un thème d'actualité. Et dans les années 50, sévit le zélé sénateur McCarthy qui fait la chasse aux méchants communistes qui traîneraient dans le pays. Et donc Murrow et son équipe décident de démonter en fait le système McCarthy. Le film est en noir et blanc, quasiment exclusivement tourné dans les studios de CBS. Et en fait, c'est vraiment un thème qui traverse. Enfin, George Clooney a fait que deux films, Confession d'un homme dangereux plus celui-là, mais c'est-à-dire regarder l'Amérique d'aujourd'hui au prisme de celle d'hier, Julien.
Oui, et puis il est aussi extrêmement intéressé par finalement les médias, parce que c'est vrai que déjà Confession d'un homme dangereux, c'était à propos d'un présentateur télé, et je crois qu'il a annoncé que son prochain serait une adaptation de Network de Sidney Lumet qui date de 1976. Et qui aussi déjà fustigé.
Le titre laisse présager que.
Fustigé les dérives de la télé, quoi. Et le film Good Night and Good Luck, c'est pas tant les dérives que mettre en avant une grande époque du journalisme. Voilà ce qu'il faut être pour être un bon journaliste. Et de la même façon que Lord of War et Constance Garner véhiculaient de la fiction et des documentaires, là ce qui est assez bien dans le film finalement, c'est qu'il l'assume complètement, il le sait, qu'il veut démontrer à force de documents que on peut être meilleur que ce que l'on est actuellement, par exemple, pour ne citer qu'elle, à Fox TV, à Fox News. Et il y a les images d'archives d'un côté, de McCarthy, c'est vraiment lui, et de l'autre, tout le studio qui est reproduit. Tout le studio où George Clooney...
Les locaux de la chaîne, en fait.
Voilà, hein. Les locaux de la chaîne où il joue. Et ça fait, c'est assez bizarre parce que ça fait comme s'il y avait une opposition entre la réalité politique d'une chasse aux sorcières qui pourrait encore être reproduite aujourd'hui, ce qu'il plus ou moins essaye de dire, et... des journalistes qui s'en vont pour fendre ça, qui n'existent plus, qu'on est obligé de reproduire en fiction, qu'on est obligé d'incarner par des héros comme George Clooney, Robert Downey Jr. ou David Stern. Et le film comme ça véhicule cette volonté militante de montrer ce qu'il faudrait être. C'est un peu naïf, mais c'est assez bien. Et en même temps, un petit bémol, c'est un peu mou.
Guillaume, est-ce que tu partages le point de vue de Julien ? Est-ce que l'exercice citoyen est réussi pour toi ?
Oui, c'est assez réussi. Moi, je dois dire que j'ai été assez épaté par George Clooney. Alors, parce que je n'avais pas vu son premier film. Moi, George Clooney, c'est Urgence, en fait. Et je ne pensais pas,
c'est déjà pas mal, hein.
Qu'il avait... Voilà, donc c'est un beau gosse, certes, mais je ne pensais pas qu'il avait du talent et qu'il sait faire du cinéma, en fait. Alors, il sait très, très bien s'entourer. Ce qui m'a épaté, c'est vraiment la réalisation et la photographie. La photographie...
Très beau noir et blanc.
Oui, Robert Elswit, très très beau noir et blanc, très très élégant, très travaillé, avec une reconstitution en fait des studios de CBS absolument fantastique. On voit de la fumée, etc. Une ambiance de travail, on y croit, on rentre dedans tout de suite et on y croit à fond, et ça marche. Et pour ça, je dois saluer quand même la performance d'un film tout à fait honnête. Sur le fond, c'est vrai que le rythme est un peu mou, et il y a une espèce de dualité en fait entre une Amérique qui se donne bonne conscience, qui montre en fait le fait qu'elle peut se corriger elle-même. Alors McCarthy, ben c'est l'occasion, donc il y a des journalistes qui sont quand même intègres et qui dénoncent quand même les dérives du système et qui arrivent à changer le système. Donc de ce côté-là, c'est vraiment l'Amérique qui a les capacités justement à se régénérer, à s'auto-corriger en fait. Et d'un autre côté, ben c'est un constat assez amer, assez lucide sur ce qu'est l'Amérique aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ben les journalistes ne font plus rien en Amérique. Enfin, ils n'y arrivent plus à dénoncer le système et à changer le système.
Voilà, c'est-à-dire qu'en prenant ce contre-exemple, voilà, Clooney renvoie en miroir effectivement la situation de Fox News. Il y avait eu un documentaire d'ailleurs il y a pas longtemps, Outfoxed, sur le sujet. C'est vraiment ça.
Oui, mais pas que ça. Même quand on dénonce en fait des choses qui ne sont pas normales en Amérique, comme par exemple les écoutes illégales de Bush, eh ben ça fait pas un remue-ménage comme ça a fait la dénonciation du McCarthyisme en fait. C'est-à-dire que les gens sont plutôt apathiques maintenant et ils croient plus trop aux journalistes, ou du moins ils ne réagissent plus. Et donc il y a ce constat qui est très amer et assez bien senti, donc je trouve que c'est plutôt une réussite.
Mais juste, je connais pas l'histoire très très bien, l'histoire des médias aux États-Unis, mais je suppose que le nombre de chaînes était moindre. Apparemment, cette émission de CBS d'Edward Monroe, c'était quand même le truc devant lequel tout le monde se retrouvait.
Oui, voilà, c'était assez central. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que il l'a payé. Et voilà, c'est ce qui montre aussi, c'est que l'engagement, ça a un coût, ça a un prix, et le prix que Edward Moreau a payé, ça a été d'être relégué au dimanche après-midi, quoi. Donc c'est pas exactement la même époque, mais voilà, ça a les mêmes enjeux. Il faut savoir s'engager civiquement, ce qu'il essaie de montrer un peu par The Film, quoi.
C'est un petit peu une glorification aussi des croyances et des valeurs qu'un journaliste peut avoir, et des valeurs qui va pousser justement à l'extrême sans jamais se retirer. Il va dire, c'est complètement ça, jamais je vais retirer les paroles que j'ai dit, et je vais continuer justement à dire la vérité, à informer les spectateurs, c'est mon métier. Puis je pense que justement ce film-là va donner pas nécessairement une critique, mais va donner un regard où on va pouvoir voir la télévision vraiment... au sens où aujourd'hui c'est gommé, c'est absurde à la limite, c'est il y a quelque chose qui est faux. tandis qu'il y en a des gens qui peuvent, justement, ils sont peut-être pas nombreux, sauf qu'il y en a, puis il va toujours en avoir.
Alors, en même temps, ce qui est assez étonnant dans ce film, c'est que justement, il se passe quasiment que dans les locaux de CBS, et il y a une ambiance assez claustrophobique, on va dire claustrophobe, c'est bien aussi. Mais ce qui est assez étrange, c'est que finalement, ces journalistes, parce que c'est vrai que ce film peut être considéré comme une sorte de charte du journalisme sur pattes, et en même temps, ce sont des journalistes qui ne sortent quasiment jamais, qui semblent assez protégés. Enfin, la menace vient vraiment de l'extérieur, qui travaille. Enfin, c'est ça aussi que montre George Clooney, c'est des gens qui travaillent en vase clos quand même.
Oui, en vase clos, mais à la fois il subit ses influences de l'extérieur. En fait, c'est une espèce de partie d'échec justement entre McCarthy et le journaliste. Chacun pose ses pions avec beaucoup, beaucoup d'attention et se renvoie la balle par écran et interview interposée sans jamais s'affronter. Et c'est vrai que cette idéalisation du rôle du journaliste, eh ben, on n'y croit pas trop. Est-ce qu'à l'époque, il y avait vraiment des gens qui faisaient du journalisme un vrai sacerdoce en étant intègre à 100% jusqu'au bout, malgré toutes les pressions de leur direction, des spectateurs, de l'audience, etc.
Ouais, le
je
directeur
suis pas
qui
tout à fait
plus
sûr.
Assez coulant hein, de CBS quand même, qui est plutôt, enfin ça va relativement.
Oui, mais alors là pour répondre justement sur ces deux points, effectivement, moi je trouve que c'est en vase clos, mais le directeur de CBS représente ça, représente le lien avec l'extérieur. Le journaliste doit être en vase clos, c'est ce qu'il essaie de dire, c'est qu'on doit s'en tenir à sa position, ce que les journalistes maintenant peut-être ne font pas. Il faut rester dans ce vase clos et être protégé justement par le directeur de chaîne, son rédacteur en chef, enfin voilà, par quelqu'un qui est au-dessus. Et je trouve qu'il le montre assez bien, et le fait que ce soit pas réaliste, ça me dérange pas, parce que justement, encore une fois, il le revendique pas, il revendique le fait que c'est une vision idéalisée du journaliste qu'il voudrait revoir aujourd'hui, quoi.
Ben juste, en fait, la scène d'ouverture, la scène de fermeture, où c'est justement le... ils vont remercier.
On raconte
en
pas
fait,
la fin
le...
des films, s'il vous plaît.
Non. C'est lors d'une soirée justement de d'honneur en fait au journalisme là.
Oui, avec un discours voilà très
moralisateur,
très, très moral. Voilà, il s'agissait donc de Good Night and Good Luck, le dernier film de George Clooney, donc à voir puisque quand même globalement très intéressant. Vincent approuve, il va se précipiter dans les salles pour le voir. On passe à tout à fait autre chose. Ah, mais ça fait plaisir. Une vie inachevée, le dernier opus de Lasse Hallström. Donc Lasse Hallström, on connaît parce que c'est un peu, on va pas dire l'abonné au film Guimauve, mais si, quand même un petit peu. On lui doit l'inoubliable Chocolat avec Johnny Depp et Juliette Binoche. Il va nous proposer sous peu, et là on est vraiment impatient, un Casanova avec Heath Ledger et Sienna Miller. Mais entre les deux, une vie inachevée, avec un joli casting quand même, avec Robert Redford, Jennifer Lopez et c'est Samuel L. Jackson. Non, oh là là, j'ai confondu Morgan Freeman. Pardon, je me suis trompée. Bon, bah, c'est bon, ça me regardait pas. Morgan Freeman. Donc ça se passe dans le Wyoming et en fait, un fermier à la retraite voit, qui je suppose est interprété par Robert.
Robert Redford, voilà. Voilà. Un fermier à la retraite voit débarquer son ancienne belle-fille.
J'ai même plus le droit de raconter les films, moi. Bon, allez, hop.
Son ancienne belle-fille avec sa petite fille donc qui revient
donc
avec un cocard.
La belle-fille c'est Jennifer Lopez.
Voilà, qui voilà. Revient avec un cocard et il y a un contentieux sur la mort de son fils entre eux et il doit la protéger. Alors le film Lasse Hallström, il faut le savoir, c'est un tâcheron mais dans le sens un laborieux, un type qui travaille bien et efficace mais qui n'a aucune âme. Il peut faire tirer les larmes à n'importe qui à n'importe quel moment. C'est une petite mécanique qui s'arrive très bien à faire. Donc le film et pas très intéressant, pas très important, la philosophie est très limitée, on sent que les acteurs cachetonnent hein, beaucoup, on voit Robert Redford qui reprend son rôle de bourru, Morgan Freeman dans le rôle de l'ami Black, Gillo dans le rôle de Gillo, on peut
faut
dire.
Faut pas oublier l'ours.
Et l'ours, voilà, et l'ours dans le rôle de l'ours mal léché. C'est tout ce qu'on peut dire, quoi. On est content de les revoir et en même temps, le film va pas très loin. Je pense
Gabi,
que je pourrais pas en dire plus, quoi.
D'ailleurs, je te coupe la parole. Gabi.
L'ours, c'est vraiment une grosse métaphore un peu absurde sur le pardon, en fait. C'est quelque chose de tellement gratuit, tellement inutile, en fait, dans tout ce film. Je veux dire, il y a aucune utilité à avoir cet ours-là.
Bon, voilà, on a fait bosser un animal pour rien.
Ça va peut-être amener à une certaine, justement, une voie de la sagesse et du pardon, mais c'est vraiment une métaphore un petit peu trop grosse. Sinon, la figure des anti-héros, par exemple, ils sont quand même sont quand même là, Robert Redford, et on voit qu'il est grincheux, qu'il veut pas trop être gentil. Il y a quand même une histoire d'amitié entre lui
et Morgan Freeman.
Exactement.
J'ai retenu son nom.
Mais sinon, tout ce qui est extérieur de ça, l'amitié et la complicité entre le grand-père et la petite-fille, je pense que c'est vraiment superflu. Le rôle de Jennifer Lopez, on peut complètement l'exclure du film.
Non, la pauvre.
Franchement, je pense que c'était un peu...
C'est oui, la fête enfin, à Gillo.
On a surtout du mal à croire en voyant Jennifer Lopez qui est censée être originaire du Wyoming. Mais bon, en fait, le problème.
Quel genre de raciste vous faites? Alors, il y a peut-être eu des vagues d'immigration.
Oui, non, mais elle colle pas dans cette ville. Le problème du film, c'est ça, c'est qu'il se place dans une petite ville. C'est pire que la province, mais, et il n'utilise pas du tout. C'est-à-dire, bon, il y a des
pardon
ours qui se baladent au milieu de la ville, donc je crois qu'on n'a pas ça en France.
Ça a été filmé au Canada, en fait,
voilà.
À Vancouver.
Et, donc il n'utilise pas du tout ça, et du coup, ça nous fait, c'est un film, comme le disait Julien, c'est un film qui est bien fait, qui a une mécanique, c'est des films qu'on ne voit plus. C'est ça qui est assez intéressant, ça nous rappelle le cinéma de, je ne sais pas, il y a 25-30 ans, et il le fait avec la même application, et c'est... Voilà, ça se voit. Sans déplaisir. Si vous voulez voir des ours, allez voir plutôt Grizzly Man, quoi.
D'accord. Bon, eh bien, le Grizzly s'est bien fait tailler un short. Robert Redford, une Canadienne, par la même occasion. Un peu de musique et on revient tout de suite après. Friend, I cannot befriend you true in searching for my light in you. In seeking out in sinless reflections, oh no. And I will not be an idle hand. I will not be an idle hand. Friend, I will be your idle man. Searching for my love in you, in seeking out its sinless protection, oh no. And I will not be a hungry ghost.
Quoi?
I will not be. Voilà, il s'agissait de Castanets, et on reprend tout de suite avec un autre documentaire, cette fois, si on l'a relagué en fin d'émission, vous vous doutez bien que c'est parce que c'est un petit peu moins bien que La Fille du Jeu, enfin on trouve, enfin pas Julien, peut-être Julien il a trouvé ça super.
Non, moi je trouve ça moins bien.
D'accord, ok. Donc Secteur 545 de Pierre Creton, de quoi s'agit-il? Attention, nous sommes dans le Pays de Caux. Le Pays de Caux, c'est une région très, ma foi, charmante de la Normandie, dans laquelle ce fameux Pierre Creton s'est fait embaucher comme peseur de lait, et oui, ça existe comme travail. Et Pierre Creton en profite donc. Voilà, alors Julien résume le film.
Non, mais il s'est pas fait engager, il est peseur de lait en fait. Il
mais a on voit l'entretien été... d'embauche au début.
C'est ce que j'ai lu dans le dossier de presse, il est peseur de lait, bon, il fait
agricole. Parce qu'il y a des peseurs de lait dans toute la France et l'entretien d'embauche, c'est parce qu'il est affecté au secteur 545.
Voilà, donc vous comprenez vraiment pourquoi je présente. Je ne comprends même pas les films que je vois. Donc, secteur 545, il est peseur de lait dans le Pays de Caux et il en profite avec sa petite caméra pour rencontrer les éleveurs chez qui il va peser le lait. C'est pour leur poser une question, ma foi, extrêmement puissante, à savoir, mais quelle différence y a-t-il entre l'homme et l'animal? Et vous vous doutez bien que les réponses amènent beaucoup plus que ils ont quatre pattes et nous deux, ou ce genre de choses. C'est un film en noir et blanc qui dure 1h45. Gabi, tu n'as pas dormi pendant le film, nous étions côte à côte.
Bah en fait les images étaient très belles. Il y avait une certaine
voilà.
Non, il y avait quand même une certaine poétique dans l'image. On peut penser que le film a une approche peut-être humaniste, naturaliste, quelque chose de vraiment des grands plans fixes avec la brume, un petit peu quelque chose de mythique, je sais pas. On évoque justement l'animal et la relation avec l'homme, toute l'industrie qui découle de l'industrie laitière et...
les yaourts, le beurre, tout ça.
Non, mais aussi, il y a une scène où la vache va être amenée à l'abattoir, où le producteur la serre, la caresse dans ses bras. Il y a quand même quelque chose de fort, sans paroles, sans musique, quelque chose de poétique. Je pense que c'est vraiment un film où, qui raconte pas nécessairement rien, qui montre des faits, qui montre une solitude, une vie à la nature.
Julien, est-ce que toi aussi tu as eu l'esprit champêtre?
Oui, ben non, pas vraiment. Je trouvais cette poésie bucolique de la vache laitière assez ennuyeux. Il n'y a pas grand-chose à dire. La question qu'il pose, il la pose, c'est une pure question rhétorique. Il n'attend pas de réponse extrêmement intéressante. Il n'y en a pas vraiment de réponse intéressante d'ailleurs à donner. Le film vit sur ça, essaie de capter la vie dans ce milieu. Il y arrive et c'est un peu ennuyeux. Quoi. Voilà, on sait que c'est un peu ennuyeux des fois.
Mais si moi j'ai peut-être pousser un petit peu plus loin la question, puis je me suis rendu compte que les fermiers réussissaient jamais vraiment à répondre à la question, la différence entre l'homme et l'animal.
Faut dire, les prend pas au dépourvu, quoi. Les pauvres, ils ont un peu autre chose à faire, et l'autre se plante avec sa caméra.
Mais je pense qu'en même temps, les longs plans où les gens savent pas quoi dire donnent un petit peu le ton au film, à savoir... est-ce qu'il y a aucune réponse? Ça fait juste se vivre, ça fait juste se... être sur le moment présent comme eux ils font en étant fermiers, en fait. Je pense qu'il y a quand même une chimie, je sais pas, quelque chose, une fusion avec l'animal et l'homme que eux ils vivent et ils ne peuvent pas expliquer.
D'accord. Donc, c'était Secteur 545. C'est un documentaire pas animalier, humano-animalier, de Pierre Creton, dans les salles dès aujourd'hui. Et nous allons tout de suite passer à la rubrique DVD.
Le DVD de la semaine.
Oh, miracle, un jingle. Et donc, Grégoire, c'est toi qui vas nous en parler, puisqu'il s'agit de 20 cinémas... Ils sont 20, les cinématons.
Ils sont 20, les cinématons.
20 cinématons, olé, olé. Enfin, nous allons parler cinéma pornographique dans Extérieur Nuit, te
voilà.
Dis-tu, auditeur.
Et pas en fait, tout à fait.
Bah voilà.
Je sais pas si vous connaissez le cinématon autour de la table. Le cinématon, c'est une œuvre cinématographique qu'a inventée Gérard Courant en février 78, qui consiste en un gros plan de visage en Super 8, donc la durée d'une pellicule Super 8, 3 minutes 20. Et il tourne ça donc depuis 78, il en a tourné pour l'instant plus de 2000, ce qui fait 150 heures quand même. Et il filme majoritairement les personnalités du monde du spectacle, de la critique, etc. Donc il y a des règles du cinématon qui ne bougent pas, c'est-à-dire que c'est une caméra qui est fixe sur pied, il ne change pas de plan, il ne change pas de,
de focal.
Effectivement, il fait pas grand chose. Du coup, il ne fait que lancer la caméra et accompagner et mettre finalement la personne qui se prête au jeu du cinématon en situation. Alors, on peut penser, du coup, c'est un peu, il se passe un peu comme les opérateurs lumière au tout début du cinéma. C'était ça qu'ils faisaient. Ils arrivaient, ils posaient une caméra sur pied, ils tournaient la manivelle. Maintenant, ça se fait automatiquement, électriquement, mais ils tournaient jusqu'à la fin de la bobine et ils ne bougeaient pas leur caméra. Donc, c'est ça. Un petit peu, et en même temps, c'est l'idée, donc cinématon, photomaton, c'est du cinéma d'identité. C'est quelqu'un qui a un laps de temps.
En gros, il a
3 minutes et 20 secondes, donc 200 secondes exactement, pour faire ce qu'il veut devant la caméra. Pas de son, évidemment, donc il peut parler, mais on n'entend pas, ou on peut seulement lire sur les lèvres, donc là, il y a certains qui savent mieux que d'autres. Et c'est donc une seule prise, pas de montage. Et tous les cinématons sont... toujours commenté. Au début, on voit un numéro, le nom de la personne, ce qu'il fait dans la vie, et fait à Paris, tel jour, à telle heure exactement. Alors, c'est les cinématons, on les voit assez souvent dans les cinémathèques. Il y a eu une rétrospective intégrale pour fêter le millième cinématon au centre Pompidou en 88. Donc là, ça avait duré 10 jours quand même.
Oh la vache. Donc,
Là, c'est à ma connaissance le premier DVD qui sort de cinématon, ce qui fait un clash un petit peu des technologies, puisque là on est en Super 8, c'est vraiment j'allais dire le béaba du cinéma, il n'y a pas de son, c'est, on ne bouge pas, hein, et on place ça sur DVD, le dernier support numérique grand public, dernier cri, et ça marche assez bien, je trouve, le passage du Super 8 au DVD. Il y a, je ne sais pas si vous avez déjà vu des films Super 8, il y a un scintillement assez caractéristique, là il est bien rendu, et sur ce côté-là ça va bien. Après, moi, ce que j'ai un petit peu, je suis un peu plus de réserve sur le DVD en soi, qui est édité du coup par une maison spécialisé dans les films gays et queer. Donc la plupart...
Nous reviendrons sur cette distinction entre gay et queer dans une émission ultérieure, parce que je suis pas sûr que ce soit clair pour tout le monde.
Donc les 10 premiers DVD sont ce que j'appellerais des cinématons de répertoire. Certains j'en avais déjà vu dans des rétrospectives, justement. Donc on voit Noël Godin, l'entarteur, on voit la chanteuse Marie-France, on voit Brigitte Lahaie, on voit Jean-Pierre Bouxiou, le critique du cinéma. Et donc c'est des gens dont on a peut-être un petit peu entendu parler, et donc du coup on peut mettre le cinématon en rapport à qui ils sont, avec ce qu'ils font sur les images.
Il n'y a pas aussi André Pousse et Annie Cordy là, donc.
Non, ils ne sont pas là, mais si tu veux on regardera s'ils ont déjà tourné un cinématon. Oui. Et les 10 suivants sont des cinématons récents, et dont j'ai un petit peu l'impression qu'ils ont été tournés pour l'occasion, en fait, pour justifier ce passage dans cette collection, et donc du coup, parce que je ne connais pas les personnes qui sont filmées, j'ai trouvé ça un petit peu moins intéressant. Savoir aussi que quand même, parce que c'est quelque chose, à mon avis, une initiative salutaire. Il y a aussi d'autres choses. Il y a en bonus des couples, parce qu'il a filmé deux personnes plutôt qu'une. Et aussi, on voit le tournage d'un cinématon, donc on voit comment il met en situation la personne et comment il le filme. Et c'est assez intéressant de connaître ça, de voir ça au moins une fois.
Ok, merci Grégoire. Donc c'était les cinématons Olé Olé de Gérard Courant.
Et c'est édité au film de l'Ange.
Oh, tu m'as grimé ma vanne. Bon, alors, c'est la fin de cet extérieur nuit. Merci de l'avoir suivi. C'est gentil à vous. La semaine prochaine, mercredi 20h, vous retrouverez Laurence. Merci à toutes les personnes présentes autour de la table, à François Régis pour la technique, et restez sur les ondes de Radio Campus Paris. Bonne soirée.
Alors quoi?
Ben t'y vas pas.
Va te faire enculer.
Campus Paris, 93.9, 17h30, 5h30.
L'autre jour, j'ai un mec dans la rue qui me dit moi j'écoute Random. Moi je lui ai dit tous mes CD aussi. Des fois la 6, ensuite la 4, parfois la 13. C'est Random tous les jours chez moi.
Mais avant tout, Random, c'est une émission consacrée à la...